inscrite en troisième année à l'Université de Montréal. Ma thèse porte sur la modélisation de dynamique morphologique de la ville de Saint-Antonin-Noble-Val dans le Tarn-et-Garonne au cours d'un long Moyen-Âge. Ce travail présente la particularité de confronter non seulement plusieurs types de sources, qui chacune fait appel à un traitement particulier, mais aussi plusieurs approches qui sont issues de différentes disciplines. Je mène en effet des sources archéologiques, planimétriques et fiscales, et je me situe à la croisée de l'archéologie, de l'histoire, de la géomatique et des mathématiques. Alors la problématique est double. Il y a d'une part l'étude de la morphologie de la ville, qui passe par la modélisation de ses dynamiques d'évolution au cours du Moyen-Âge et du début de la période moderne. Et puis il y a également un volet méthodologique, qui est la mise en place d'une méthode novatrice. Alors cet aspect méthodologique s'intègre dans un programme de recherche actuel, qui est donc le projet Modèle Espace, financé par l'ANR depuis janvier 2010, et dirigé par Florent Hautefeuille, qui regroupe trois laboratoires de Tours et de Toulouse, et qui travaille sur la conception d'un outil qui permette la comparaison de documents fiscaux d'époques différentes. Et donc on fait appel à un outil mathématique, les graphes, pour pouvoir comparer différents états du paysage. Alors au sein de ce projet, mon travail de thèse consiste à développer une problématique propre et des éléments de méthodologie intégrables à l'échelle du programme Modèle Espace sur une aire géographique propre qui est donc Saint-Antonin-Noble-Val. Cette petite ville se situe dans le département du Tarn-et-Garonne. Elle est à cheval sur trois régions historiques, le Rouergue, le Quercy et l'Albigeois. Cette aire géographique a été choisie pour plusieurs raisons. D'une part, un corpus documentaire riche, notamment en sources fiscales, et d'autre part, une conservation de vestiges monumentaux ou médiévaux exceptionnels. La ville en elle-même se situe à la confluence de deux cours d'eau, la Bonnette et l'Aveyron, et c'est à cette confluence que est installée une abbaye bénédictine dédiée à Saint-Antonin au 8e siècle. Alors le choix du site a certainement été déterminé par un franchissement possible de l'Aveyron, hein, qui en a fait un carrefour routier. L'histoire de la ville débute certainement avec l'établissement de cette abbaye. Alors, la ville est sous l'autorité de vicomte jusqu'au XIIIe siècle, et à partir du XIIIe siècle, elle est placée sous protection royale. On a une période de grande vitalité autour du XIIIe siècle, qui est certainement liée au commerce. Alors, la ville de Saint-Antonin et son territoire sont une zone d'étude considérable, donc j'ai fait le choix d'une approche basée sur un système d'éclairage. Alors en zone urbaine, j'ai sélectionné un certain nombre d'îlots, c'est ce que vous avez en rouge sur le plan de la ville. Et ces îlots vont bénéficier d'une approche archéologique fine. Et en ce qui concerne la zone périurbaine, j'ai sélectionné donc une bande de territoire qui sera elle aussi étudiée finement. Alors j'ai choisi de ne pas laisser de côté la campagne, car dans ce cas, donc, la réflexion ne doit pas s'arrêter à l'espace bâti, puisque l'évolution de la ville a un impact sur l'espace environnant. Hein, je vais essayer de voir comment la ville structure cet espace, justement, et jusqu'où la concentration de l'habitat a un impact sur la campagne. Donc, ce travail vise la compréhension des rythmes d'évolution de ce bourg monastique. Il s'agit d'étudier, en passant par la modélisation, le fonctionnement des processus qui conduisent à la formation de l'espace urbain. Donc, pour cela, j'ai sélectionné trois principaux types de sources, des sources fiscales, planimétriques et archéologiques, auxquelles s'ajoutent des sources écrites diverses, actes civils et comptes consulaires, mais qui sont étudiées de manière moins systématique. Hein, donc j'étudie deux compois parmi les quatre qui existent à Saint-Antonin et un certain nombre de reconnaissances royales et de reconnaissances au chapitre qui forment des jalons réguliers dans le temps. Alors une partie de ces documents a déjà été saisie dans une base de données par un généalogiste local et je complète donc cette base de données. Je transforme donc ces registres sous forme de graphes pour permettre ensuite une comparaison des différents états du paysage et pour pouvoir saisir des dynamiques et remonter jusqu'à une période où je dispose de plans. Donc c'est là que je fais appel à ces sources planimétriques. Donc j'utilise d'une part le cadastre napoléonien. Hein, donc c'est ce que vous avez sur cette carte ici, c'est ce qui est en jaune. Donc, cadastre napoléonien qui a été géoréférencé puis vectorisé pour l'ensemble de la commune et qui me sert de base pour le traitement des plans plus anciens. On a également un plan de la ville dressé en 1782 que j'ai également géoréférencé et vectorisé. Et ce plan est accompagné d'une table correspondante qui mentionne le propriétaire, la nature et le montant de l'imposition. Donc, c'est la deuxième carte que vous avez ici qui fait apparaître les différents types d'occupation du sol. Et on a enfin un terrier qui date de 1688 et qui est accompagné de blancs. Et ces blancs couvrent environ un tiers de la commune, donc c'est ce que vous avez en rouge sur ce plan-là. Alors, ils ne concernent pas la ville, mais le territoire. Ces plans ont une réalité géographique totalement inexistante, donc il n'a pas été possible de les géoréférencer et de les déformer, mais par contre, je les ai vectorisés en m'appuyant sur le parcellaire napoléonien. En ce qui concerne l'archéologie, d'une part, je revisite des données de fouilles anciennes, donc c'est le cas notamment des fouilles qui ont eu lieu dans les années 1987 à l'emplacement de l'ancienne abbaye. La même année, Serge Robert a également pu faire des observations lors de travaux. Il a pu observer des canaux souterrains. Et j'ai moi-même eu l'opportunité, à l'hiver 2012, de suivre des travaux d'aménagement dans le secteur de la rue du Four, au nord de la ville, qui ont mis au jour un certain nombre de canaux souterrains. Alors, il n'y a pas eu vraiment de fouilles à proprement parler. Hein, c'est un suivi de travaux, donc j'ai pu mener un certain nombre d'observations et établir une chronologie relative entre ces canaux et les maisons qui sont encore en élévation. Et puis j'ai pu mener deux sondages qui ont permis voilà, de collecter quelques informations sur l'organisation de ces canaux. En ce qui concerne l'archéologie du bâti, on a, je vous l'ai dit, un très riche corpus de vestiges médiévaux conservés sur les façades et également à l'intérieur des maisons. Donc là, le service de l'inventaire a fait un très gros travail de recensement, travail qui a été publié. Et je complète, par mes investigations, cet inventaire. Hein, donc vous avez la carte ici qui représente donc en rouge foncé les maisons dont les vestiges médiévaux sont datés, et en rouge plus clair ceux pour lesquels pour le moment on ne peut pas proposer de datation. Alors c'est un inventaire qui n'est pas du tout exhaustif, hein, que je complète au fur et à mesure des observations que je mets. Alors je reviens juste une minute sur ces fameux canaux dont je vous ai parlé, puisqu'il y a à Saint-Antonin un réseau hydrographique particulier, qui est lié au fait que la ville est implantée à une confluence, mais pas seulement, parce qu'on a aussi l'action de l'homme. On a donc le cours d'eau, la Bonnette, hein, c'est ce cours d'eau, qui est dérivé à deux endroits, ici et ici. Donc la première dérivation est mentionnée en 1155 pour la première fois, la seconde est mentionnée à partir du XIIIe siècle. Donc la première question qui se pose, c'est de savoir pour qui ces dérivations ont été construites, si c'est pour l'abbaye ou si c'est pour la ville. Pour le moment, j'ai pas la réponse. Dans tous les cas, c'est à partir de ces dérivations, il y a tout un réseau de canaux qui parcourt la ville et j'ai pu observer qu'un certain nombre de maisons sont construites après les canaux. Les maisons donc, du XIIe, XIIIe siècle sont installées soit après, soit en même temps que les canaux. Donc on a vraiment une conception parallèle. Alors ces canaux sont tantôt à ciel ouvert, tantôt souterrains. Donc pour les canaux à ciel ouvert, là, il n'y a pas de suspense, on les connaît, Par contre, pour les canaux souterrains, il y a un énorme potentiel encore inconnu, puisqu'on a juste, voilà, Serge Robert a observé dans cette partie-là les canaux, mais on n'a pas plus d'informations. Moi, donc, j'ai pu voir ceci, mais pour toute la partie est, il y a certainement encore énormément de canaux souterrains. Alors, ils sont utilisés pour plusieurs choses. D'une part, l'évacuation des eaux usées. Hein, j'ai pu observer qu'un certain nombre de maisons, voire un grand nombre de maisons étaient reliées directement à des canaux secondaires, donc certainement pour évacuer donc les eaux des latrines ou des éviers. On a ensuite tout ce qui concerne l'activité de tannerie, de draperie, la boucherie également, hein, qui nécessite de l'eau. On a deux tanneries, dont une est médiévale, l'autre est moderne, qui sont conservées à Saint-Antonin. Et puis on a enfin la force motrice, puisque deux moulins étaient établis à l'intérieur de la ville. Voilà, donc juste pour terminer, ce sujet me permet d'aborder des questionnements variés qui sont d'une part propres à l'étude morphologique d'une petite ville au Moyen-Âge, qui concernent donc l'organisation de la ville, ses rythmes d'évolution sur l'ensemble du Moyen-Âge et puis le début de la période moderne, se poser des questions sur les modalités d'aménagement du territoire, sur la gestion de l'espace urbain par la communauté et plus largement de l'impact de l'homme sur son environnement, la relation de la ville avec son territoire également. Et ensuite, des questions propres au bourg monastique. L'abbaye a-t-elle été un moteur et de quelle manière elle a été un moteur dans le développement de la ville? Des questionnements qui sont propres à la zone d'étude. J'en ai pas parlé, mais il y a le rôle de la co-seigneurie dans le découpage du territoire, avec le chapitre, les vicomtes, puis le roi. Et on a ensuite une connexion, la question de la connexion entre la trame urbaine et le réseau hydrographique, ce que je vous ai présenté rapidement. Et on a enfin des questionnements qui sont liés à l'élaboration d'une nouvelle méthodologie. Donc je ne me suis pas attardée sur la question des graphes, mais voilà, c'est essayer de voir comment les registres fiscaux peuvent renseigner le paysage médiéval, est-ce qu'ils peuvent remplacer la carte pour une compréhension de l'espace, Et puis enfin, comment l'association de sources de nature différentes peut renseigner sur la morphologie d'une ville.
Voilà. Juste par rapport à l'analyse des données, tu appuies sur quoi comme moyen d'analyse? Parce que si tu veux travailler sur l'organisation, les rythmes, comment tu fais pour croiser en fait les observations du bâti, du réseau hydrographique, donc des données matérielles avec des informations textuelles? Ça s'intègre comment, ces choses-là?
Alors c'est en cours d'élaboration au sein de la SIG, avec différents niveaux d'enregistrement. Pour le moment, c'est des bases distinctes qu'il faut ensuite...
Donc c'est par superposition d'éléments, quoi.
Oui.
Et après, c'est de l'analyse cartographique empirique, quoi.
Oui, alors voilà, il faut que je vois comment est-ce que je peux... faire une analyse, ça c'est encore...
D'accord. Et l'étude se joue uniquement sur le Saint-Antonin médiéval, ou est-ce que vous le pensez dans la diachronie?
Plutôt, non, Saint-Antonin médiéval. Voilà, le Moyen-Âge et le début de la période moderne.